Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaboriau. Adaptation Henri Wetzmann.
Troisième épisode. Bonjour, monsieur Lecoq.
Résumé du deuxième épisode.
En attendant la venue de l'inspecteur de la sûreté, envoyé par la préfecture de police, le juge d'instruction s'informe auprès du maire d'Orcival et du juge de paix
Planta
sur la vie du comte et de la comtesse de Trémorel.
Puis il interroge vainement un domestique jardinier que son mutisme accable.
Il le fait arrêter et va procéder à l'interrogatoire du braconnier.
La ripaille. Dans la pièce du rez-de-chaussée, au château du Valfeuillu.
Ah, c'est donc vous, Jean Berthaud, dit la ripaille.
Pour vous servir, monsieur mon juge. Et lui, c'est Philippe, mon fils.
Bien. Monsieur le juge. Alors d'abord vous, la ripaille.
Oui.
Vous avez menti à monsieur le maire, en lui disant que vous avez aperçu de votre bateau le corps de madame de Trémorel. Taisez-vous, s'il vous plaît. Vous répondrez quand je vous le demanderai. Monsieur le maire a consigné dans son rapport que votre embarcation n'avait pas été détachée. Que les rames étaient sèches, tout comme vos instruments de pêche et de rapine. Au surplus, depuis le lieu où était amarré le bateau, jusqu'à l'endroit où gisait le corps de la malheureuse comtesse, on a remarqué des traces de pas qui ne trompent pas. Alors, pourquoi avoir menti? Alors, cette fois, parlez.
Je vais vous dire, monsieur mon juge. Tu vois, Philippe, je t'avais prévenu. On aurait mieux fait de se taire.
Je croyais bien faire, papa.
Tais-toi, Philippe. Bon. Eh bien, je vais vous dire la vérité. C'est facile à deviner quand on me connaît, d'ailleurs. Voilà. Bon, l'autre nuit, c'était le 9 juillet, je crois, oui. Et surtout, c'était la pleine lune.
Et c'était la pleine lune.
Tais-toi, Philippe. On en a profité pour se lever sur les 3 heures du matin. Mmh. Enfin, avant l'aube, quoi.
Oui, au fait.
Pour aller à la pêche. Ouais. Mon fils et moi. Faut vous dire que notre bateau, il est toujours amarré à une cinquantaine de mètres en amont du pont de fil de fer, là, le long de la prairie, qui rejoint la propriété du comte de Trémorel, le Valfeuillu. Là.
Le Valfeuillu, à côté de...
Tais-toi, Philippe. Une fois Philippe et moi arrivés au bord de l'eau, je me suis aperçu, tout en tenant mon écope pour vider le fond de la barque, qu'un des tolets usés par la rame, il risquait de se casser.
Oh, il se cassait, monsieur le juge, il se cassait.
Alors, j'ai demandé à mon gars d'aller chercher un bout de bois pour refaire le tolet. Comme il n'y a pas d'arbre dans la prairie, il a dû pousser jusqu'au parc du Valfeuillu.
Oh oui, papa.
Et il a tout bonnement franchi le fossé qui entoure la propriété de M. le comte.
C'est ça, vous êtes peu scrupuleux de l'article 391 du code pénal. Enfin, non, mais continuez.
Oui, on vous écoute.
Oh, c'était pas bien grave.
Oh non.
Juste pour couper une branche à l'un de ces vieux saules, qui à cet endroit, d'ailleurs, il trempe au fil de l'eau. D'ailleurs, Philippe, il a pas eu le temps de le faire.
Non, j'ai pas eu le temps, monsieur le juge.
Tais-toi, Philippe. Parce qu'à peine sur le terrain, je l'ai entendu m'appeler en criant de me dépêcher. Oh, il avait une drôle de voix. Et je me suis dit qu'il devait se passer là-bas quelque chose de pas ordinaire.
J'y ai dit qu'il se passait quelque chose de pas ordinaire, monsieur le juge.
Tais-toi, Philippe. J'ai lâché mon écope. Et je l'ai rejoint. Alors regarde ce qu'il m'a fait. Oh, je vous avoue que je suis resté paralysé devant ce que je voyais. Oh, monsieur mon juge, tout au bord de l'eau, là, qu'il était le cadavre. Les jambes sur la berge, tout le haut du corps flottant, et la tête dans la vase. Un assassinat, qui s'écrie Philippe.
J'ai crié un assassinat, papa.
Tais-toi, Philippe. Bien sûr que je lui dis. Mais qui peut bien être cette femme? On va bien voir, qui dit le gamin, qui, en s'avançant vers le cadavre, là. Bouge pas, malheureux, que je réponds, en le retenant par la manche. Faut jamais toucher à rien dans un cas pareil en l'absence de la justice. Alors faut prévenir le maire, qui rétorque. Moi, je dis non. On serait capable de nous accuser. Et puis, bah, Philippe, il a tellement insisté.
Bah, c'est vrai, on n'est pas des sauvages, monsieur le juge.
Ouais.
Mais comme le craignait mon père, on lui demandera peut-être ce qu'on faisait à cette heure-là dans la propriété de monsieur le comte.
Ouais.
Bah, c'est moi qui ai eu l'idée de dire à monsieur Courtois que c'est en côtoyant le parc dans notre bateau que nous avons aperçu le corps.
Eh ouais. Alors, on a franchi de nouveau le fossé, et abandonnant nos agrès dans la prairie, eh ben, on a été sonné à la porte de monsieur le maire d'Orcival. Voilà, monsieur mon juge, voilà la vérité vraie.
La vraie vérité, monsieur le juge.
Ouais.
Vous auriez pu me raconter toute cette histoire. Seulement, il vous aurait fallu avouer que vous pénétriez chez autrui à des heures indues.
Et voilà.
Dame.
Évidemment.
Madame, oui. C'était trop bête d'avoir des histoires pour un bout de bois. Et puis, je vaux mieux que ma réputation, monsieur le maire. Et il y a bien des gens qui peuvent pas en dire autant.
Oh,
oh, oh, oh, ouais. Ben, j'en connais qui, hein, si je voulais babiller...
Oh,
ouais, ouais, ouais. Car on voit bien des choses quand on court la nuit.
Oh, la nuit.
À quoi faites-vous allusion?
Je disais ça comme ça.
Oui, bien, vous feriez mieux de me dire comment vous avez passé la nuit, avant de vous coucher, pour vous lever à 3h du matin.
Je suis sorti, ben, il va être 10h du cabaret, ouais. J'ai été posé quelques collets dans les bois de Mauprévoir. Puis je suis rentré vers les minuit. À preuve, c'est que les collets, ils doivent y être encore. Et peut-être qu'il y a du gibier de prix.
Et trouveriez-vous un témoin pour affirmer que vous êtes rentré vers minuit?
Ma foi, ça, j'en sais rien.
Ah.
Il est même possible que mon fils, bah, il soit pas réveillé quand je me suis couché.
Ah, c'est dommage.
Je dormais, papa.
Oh, oh, oh. Je me fais pas d'illusions. Vous allez me mettre en prison, à ce que je vois. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé les coupables. Oh. Si nous étions en hiver, je m'en plaindrais pas. Non. Mais juste au moment de la chasse, c'est contrariant. Enfin. Ça sera une bonne leçon pour Philippe.
Je l'ai pas fait exprès.
Tais-toi, papa. Philippe. Ça lui apprendra à ce qu'il en coûte de rendre service aux bourgeois.
Oui, assez, oh, oui. S'il vous plaît. Et maintenant, faites attention à ce que je vais vous demander. Connaissez-vous Guespin?
Certainement. Oui. Nous jouons parfois aux cartes en sirotant un Gloria. Oh. Oui. Et puis, je vois bien pourquoi vous me demandez ça.
Allez, parlez.
Ah, ma foi, tant pis. Je vais tout vous avouer. Ah, chacun pour soi, n'est-ce pas? Si le Guespin, il a fait le coup, c'est pas ce que je vais vous raconter qui le rendra plus noir. Et moi, j'en serai pas plus mal vu. Alors, voilà. Je connais ce garçon parce qu'il m'a donné à vendre des fraises et des raisins de la serre du comte. Ouais. Oh, peut-être pas qu'il échapperait. Bref, bah, nous partageons l'argent que j'en tirais, quoi.
Foutaise. Ah. C'est tout?
Bah, ouais.
C'est tout?
Ouais, c'est tout. Ouais, vous voyez que je suis franc, non?
Et toi, Philippe, tu le connaissais, ce Guespin?
Bah, seulement pour l'avoir vu chez nous à diverses reprises, monsieur le juge. Bah, je savais que mon père faisait des affaires avec le jardinier de monsieur de Trémorel, mais... Mais quelles affaires, ça, je l'ignorais, monsieur le juge.
Tais-toi, Philippe. Je raconte pas tout. Et ça avait si peu d'importance.
Vous trouvez? On vole, on chaparde à droite, à gauche. C'est sans importance.
Bah,
en tout cas, moi, personnellement, j'ai peut-être adressé la parole à Guespin 4 ou 5 fois en tout.
Oui, entendu, entendu, j'ai compris.
Tais-toi, Philippe.
Je commencerai l'instruction de toute l'affaire demain, quand j'aurai vu mon greffier. Pour le moment, je maintiens la ripaille en prison. Son fils est libre. Allez, exécution.
Sans être indiscret, mon cher juge, pourquoi avez-vous ordonné la mise en liberté du fils de ce coquin de la ripaille?
Parce que, mon cher maire, si un crime a été commis et qu'il y a plusieurs complices, il est bon de laisser dehors un de ceux qu'on tient. On le surveille et il fait prendre les autres.
Ah, c'est très fort. Je n'y avais pas pensé.
Oui, mais en attendant, on n'a toujours pas retrouvé le cadavre du comte de Trémorel.
Oui. Pour moi, on l'aura jeté à l'eau.
Je le pense aussi. C'est pourquoi j'ai donné des ordres pour que des pêcheurs sondent la Seine, en commençant leur recherche un peu au-dessus de l'endroit où on a retrouvé le corps de la comtesse.
Messieurs, je vous ferai observer qu'il serait sage de prendre à la hâte quelque nourriture si on veut poursuivre les investigations jusqu'à la tombée de la nuit.
C'est juste. Écoutez, nous pouvons passer dans la cuisine où il reste de quoi improviser un encas.
Eh bien, merci beaucoup.
Non, mais je vous en prie, faites.
Après vous. Merci.
Pas mauvais du tout, ce vin de Loire.
Effectivement.
Vous ne buvez pas, juge Dominique.
Si. Excusez-moi. Ah. Merci.
Et sinon, vous verrez.
Je pensais à l'affaire qui, je l'espère, ne me fera pas passer des nuits blanches.
Le crime est affreux.
Oui.
Abominable.
Mais j'en vois nettement le mobile. Ce qui est déjà beaucoup. Et si la ripaille et Gaspin ne sont pas coupables, ils sont au moins complices.
À l'agent de la sûreté de le prouver.
Je suis furieux contre ce policier-là. Il va être ici depuis un bon moment. Il y a là une désinvolture. Pour ces messieurs de la préfecture de police, tout ce que nous faisons et rien, c'est la même chose. Vous verrez qu'il va vouloir reprendre l'enquête à zéro. Le temps perdu.
Vous savez, tout dépend du policier, précisément.
Votre verre est vide, docteur. Un peu de vin ?
Merci, oui. Écoutez-moi, il en est de subtil des policiers, n'est-ce pas ? Comme le père Tabaret qui a fait école. Et les choses ont évolué depuis que Vidocq a inspiré la réforme de la rue de Jérusalem, il y a une trentaine d'années.
Ouais, il y a seulement un peu plus de mouchards, mon cher docteur.
Oh, il y a surtout des investigateurs. C'est une nouvelle race d'agents.
Oui.
Je souhaite que la préfecture vous ait délégué un de ceux-là.
Très bien, Sbourgueil. Très bien.
Vous avez évoqué Vidocq, dont la justice, si j'en crois mes devanciers, aurait eu plus à se plaindre qu'à se louer. D'ailleurs, nous sommes en 1865 et il était d'une autre époque.
Il est mort il n'y a pas si longtemps, en 1857. Il est vrai qu'il avait alors 82 ans. C'est quand même lui qui a créé le service de sûreté et tout ce qui se fait à présent s'inspire de ses méthodes. La police de Louis-Philippe qui a voulu marcher sans lui a bien été la plus mauvaise qui soit.
Oui, tout à fait d'accord. Il m'était donné, quand j'exerçais la profession d'avoué, de me pencher sur des affaires anciennes relevant de ma compétence. Et j'ai constaté que Vidocq, qui avait monté un bureau de renseignement dans l'intérêt du négoce rue Vivienne, s'était souvent substitué à la police défaillante pour protéger le commerce et l'industrie. Mais cela, monsieur Dominique, doit le savoir.
Certes. Mais ce curieux homme s'est révélé très efficace. Je n'ignore rien des résultats qu'il a obtenus et qui lui ont procuré de hautes relations dans la hiérarchie de l'époque. Mais ces procédés étaient parfois sujets à caution et frisaient même l'illégalité. Non, mais enfin, ne nous éternisons pas sur ce sujet. Espérons que l'agent de la préfecture, qui décidément se fait attendre, aura toutes les qualités de Vidocq, mais aucune de cet art.
Oiseaura.
Exactement. Il sera bien obligé de constater que nous lui avons, en somme, mâché la besogne.
Absolument. Espérons-le.
Oui. Alors, en attendant, si vous le permettez, je voudrais un peu me plonger dans mes notes.
Mais je vous en prie, faites donc.
Dites-moi, vous avez dit, mon cher Planta,
oui,
que le premier mari de la comtesse, Sauvresy, avait été enlevé par un mal dont on a vainement cherché les causes.
À l'origine, c'était, je crois l'avoir rappelé, une fluxion de poitrine dont il ne s'est jamais bien remis.
Ah,
oui. Vous entendez?
Qu'est-ce que c'est?
Quoi non? Mais vous n'entendez pas, Gendron?
Si, si.
Un mort. Un mort assassin.
Ceci.
Vous entendez, Courtoise?
Oui.
Mais c'est le village qui arrive.
Qu'est-ce que ça signifie?
Mais Orcival a déjà appris.
Quoi?
Oui.
Il faut faire quelque chose.
Bien, Courtoise.
Les gendarmes ont dû être débordés.
Les gens,
et la foule envahit la cour.
Allez, Courtoise, faites quelque chose. Allez.
Oui. Je vais aller faire entendre raison à ces gens. Et les engager à se retirer.
Faites vraiment votre devoir.
Oui, on ferait fort bien pour toi.
Mes chers administrés,
c'est un scandale.
Un crime inouï vient d'ensanglanter notre paisible commune. Je m'associe à votre douleur. Je comprends donc. Et je m'explique votre fiévreuse émotion.
C'est notre inquiétude, monsieur.
Votre indignation légitime. Autant que vous, mes amis. Plus que vous.
Est-ce que vous en savez?
J'estimais ce noble comte de Trémorel.
Mais où est le comte
de Trémorel?
Et vous,
l'un et l'autre ont été la providence de notre contrée. Nous les pleurons. Ensemble.
Bon, eh bien, je vais refermer la porte.
Ah, ça, c'est une excellente idée.
Oh, oui.
Dites.
Oui.
Je vous assure que les symptômes que vous me dites ne sont pas rares à la suite des pleurésies. On croit avoir triomphé de la maladie, on rengaine la lancette. On se trompe. De l'état aigu, l'inflammation passe à l'état chronique et se complique de pneumonie et de phtisie tuberculeuse.
Zut, j'avais mal fermé la porte. Notre mère est bien partie.
Oui.
On l'entend, mais il s'écoute.
Un peu trop, peut-être.
Dites-moi, quels ont été les premiers diagnostics?
Eh bien, il y a eu 2 ou 3 consultations qui n'ont pas donné de résultats favorables. Comment dire? Sauvresy accusait des souffrances tout à fait étranges. Il se plaignait de douleurs si invraisemblables, si absurdes, passez-moi le mot, qu'il déroutait les conjectures des médecins les plus expérimentés.
Mais n'était-ce pas Rénal de Paris qui le voyait?
Lui-même. Il venait tous les jours et souvent restait couché au château. Maintes fois, je l'ai vu remonter soucieux la grande rue du Bourg. Il allait surveiller la préparation des ordonnances chez le pharmacien.
Oui. Certainement, votre pharmacien est un homme intelligent, mais vous avez Orcival même un garçon qui lui dame joliment le pion.
Ah bon?
Oui, c'est un gaillard qui fait le commerce des simples et qui a su y gagner de l'argent. Un certain Roblot.
Le rebouteux?
Juste. Je le soupçonne de donner des consultations et de faire de la pharmacie à huis clos. Il est fort intelligent. C'est moi, du reste, qui ai fait son éducation. Il a été pendant plus de 5 ans mon garçon de laboratoire. Et encore maintenant, quand j'ai quelques manipulations délicates, je... Mais qu'avez-vous, mon cher Planta? Mais vous êtes soudainement pâle. Dites-moi, seriez-vous incommodé?
En effet, mais monsieur le juge de paix d'une pâleur, seriez-vous incommodé?
Excusez-moi, ce n'est absolument rien. Avec mon maudit estomac, dès que je change l'heure des repas...
Oui, et l'on manque d'air dans cette cuisine. Écoutez, je vais rouvrir la porte.
Tenez, asseyez-vous, hein, monsieur le juge.
Le brave Courtois.
Merci, Jean-Bro.
On doit en avoir terminé maintenant, voilà. Enfin.
Merci, monsieur le juge, merci beaucoup.
Regagnez vos paisibles demeures.
Il est adroit, Courtois, oui.
Retournez à vos occupations.
Prenez ses électeurs.
Soyez sans crainte.
Merci.
La loi vous protège.
Merci, monsieur le maire.
Déjà, la justice a commencé son œuvre. Deux des auteurs de l'exécrable forfait.
Ça, je crois qu'il les a
et nous sommes sur la trace de leurs complices.
Il a bientôt fini. Alors, vous vous sentez mieux, monsieur Planta?
Oui, merci, Gendron, ça va mieux. Oui, c'est passé. Je pense aussi à une chose curieuse. De tous les domestiques actuellement au château, il n'en est pas un seul qui ait connu Sauvresy. Oui, peu à peu, toute la maison a été renouvelée.
Il est de fait que la vue d'anciens serviteurs n'eût pu qu'être fort désagréable à monsieur de Trémorel.
J'ai fait comprendre à tous ces gens l'indécence de leur conduite.
Vous fûtes magnifique, Courtois.
Merci, merci, merci. Ah, tous se sont retirés. Le brigadier m'a dit qu'on voulait faire un mauvais parti au fils de la ripaille, Philippe, quand il est sorti libre d'ici. Il fallait s'y attendre, hein. L'opinion publique ne s'y gare pas.
Allez, prenez un peu de Bourgueil, mon cher Courtois. Merci, ça va vous rafraîchir.
Ah oui, j'en ai de soif.
En reste-t-il?
Vous avez le même fournisseur, Courtois? Merci, bien sûr, docteur. Merci. Il est très frais.
Bon, hein. Vôtre.
À l'exacte température, il doit être servi.
Oui, oui, exactement.
Mais qu'est-ce que c'est?
Monsieur,
que voulez-vous, monsieur?
Que désirez-vous?
Qui vous a permis d'entrer? Et qui êtes-vous?
Je suis monsieur Lecoq.
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 De la Sûreté.
La Sûreté.
Envoyé par la préfecture de police sur demande télégraphique pour l'affaire en question.
Ah, ah, alors, c'est vous que monsieur le préfet de police m'envoie pour le cas où certaines investigations seraient nécessaires, hein?
Moi-même, monsieur. Tout à votre service.
Bon, eh bien alors, puisque vous voici, nous allons vous expliquer ce dont il s'agit.
Inutile.
Comment inutile?
Tout à fait inutile.
Il est cependant indispensable que vous sachiez...
Et quoi? Ce que c'est monsieur le juge d'instruction. Et je le sais déjà.
Comment?
Et nous visons assassinat, ayant le vol pour mobile.
Absolument.
Et nous partons de là.
Absolument.
Nous avons ensuite l'escalade, le bris de clôture, les appartements saccagés. Le cadavre de la comtesse a été retrouvé... Mais le corps du comte est introuvable.
Non, introuvable.
Et quoi encore? La ripaille est arrêtée.
Oui.
C'est un mauvais drôle. En tout état de cause, il mérite un peu de prison.
Absolument.
Guespin est revenu ivre.
Oh oui.
Ah.
Oh là là.
Ah, il a de rudes charges contre lui, ce Guespin. Ses antécédents sont déplorables.
Exact, exact.
On ne sait où il a passé la nuit. Il refuse de répondre. Il ne fournit pas d'alibi. Alors, c'est grave.
Ah, oui, ça...
C'est très, très grave.
Mais... Mais qui vous a renseigné?
Un peu tout le monde.
Mais comment ça?
Mais où?
Ici. Ici. Je suis arrivé depuis plus de 2 heures déjà.
Comment?
J'ai même entendu le discours de monsieur le maire.
Mais comment?
Vous avez entendu?
Mais vous ne saviez donc pas que je vous attendais?
Je vous demande pardon. J'espère pourtant que monsieur le juge voudra bien m'entendre. C'est que l'étude du terrain est indispensable. Oui, il faut voir dresser des batteries. Et je tiens à recueillir les rumeurs qui circulent, l'opinion, comme on dit, ne serait-ce que pour m'en
défier.
Oui,
alors tout cela justifie votre retard.
Monsieur le juge n'a qu'à s'informer rue de Jérusalem. On lui dira que je sais mon métier. L'important pour bien mener une enquête est de n'être point connu.
Point connu?
Oui, la police, enfin c'est bête comme tout, mais c'est comme ça, n'est pas très bien vue du public.
Oh.
Ah, voyez-vous, maintenant qu'on va savoir qui je suis et pourquoi je suis venu, on ne me dira plus rien. Ou si j'interroge, on me répondra 1000 mensonges ou on aura des réticences.
C'est assez juste.
Alors, donc, quand on m'a dit là-bas, c'est en province, j'ai pris ma tête de province.
Qu'est-ce que vous racontez, là?
Oui, j'arrive et tout le monde, en me voyant, se dit, voilà un homme bien curieux, mais il n'a pas l'air méchant. Alors je me glisse, je me faufile, j'écoute, je parle, enfin, je fais parler. J'interroge, on me répond à cœur ouvert, je me renseigne, je recueille des indications, on ne se gêne pas avec moi. Ils sont charmants, les gens d'Orcival.
Ils sont charmants.
Oui, on m'a même invité à dîner.
Bon, alors, puisque vous savez tant de choses, nous allons procéder à l'examen du théâtre du crime. Hein?
Je suis à vos ordres, monsieur le juge.
Que révélera l'examen? Vous le saurez demain.
C'était d'après l'œuvre d'Émile Gaboriau, adapté par Henri Weitzman,
le troisième épisode du crime d'Orcival.
Avec Jacques Charpie, Serge Grand, Raoul Guillet, Gérard Lartigot, Jacques Maire, Fred Persson, Christian Zanetti.
Bruitage Dominique Aubert, chef opérateur du son Guy Senot, collaboration technique Claude Niort, assistant de production Didier Lagarde, réalisation Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 15 août 1984. À réécouter en ligne ou à télécharger, ainsi que les deux premiers épisodes sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, un drame de famille.